Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bien, chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce mercredi 29 juin 2022. On va vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La sécurité du Pakistan équivaut à celle de l'Iran, a indiqué le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique lors d'une rencontre avec le chef d'état-major des forces armées pakistanaises. Un soldat israélien a été poignardé dans la vieille ville de Qots. L'auteur de l'attaque a réussi à s'échapper. Et l'ONU appelle le Soudan et l'Éthiopie à faire preuve de retenue et à prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le chef d'état-major des forces armées pakistanaises, le général Nadim Reza, et la délégation militaire l'accompagnant se sont entretenus ce mardi 28 juin à Téhéran avec le commandant-chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, le général de division Hossein Salami. Souhaitant la bienvenue à la délégation pakistanaise, le général de division Salami a tenu à faire allusion aux relations religieuses, culturelles, historiques, étroites et profondément enracinées entre les deux pays et nations avant d'ajouter. Dans l'histoire profonde des deux nations, il n'y a d'autre signe que l'amitié et la fraternité. En plus de ces points communs forts et profondément enracinés, en tant que pays membre du monde musulman, nous avons des ennemis communs. Qualifiant le régime sioniste d'ennemi du monde islamique et de l'humanité, le général Salami a souligné que les Américains, qui sont l'appui des sionistes, sont fondamentalement des ennemis de l'Oumma islamique. Le commandant en chef du CGRI a déclaré que la présence des Américains dans le monde de l'islam a eu pour résultat de grandes divisions, des guerres internes prolongées, la destruction des maisons, le déplacement des citoyens et le pillage des ressources nationales des peuples musulmans. Quand on regarde l'Afghanistan, on voit les effets néfastes et irréparables de l'intervention américaine. Grâce à Dieu, nos ennemis battent en retraite et nous espérons que les pays de la région retrouveront leur indépendance avec confiance et solidarité, a-t-il souhaité. La sécurité du Pakistan équivaut à celle de l'Iran et nous insistons sur le développement et la consolidation des relations et coopération bilatérales dans divers domaines, notamment l'amélioration du niveau de sécurité aux frontières communes et la lutte contre le terrorisme, a rappelé le général de division Hossein Salami. De son côté, le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le général Nadim Reza, a évoqué de nombreuses affinités irano-pakistanaises, disant que la division et la discorde au sein du monde de l'islam sont planifiées par les États-Unis et l'Occident. Les Américains, a-t-il ajouté, ont quitté l'Afghanistan après 20 ans sans y établir la sécurité et leur présence n'a eu aucun acquis positif. Il a également souhaité l'essor des coopérations avec l'Iran en matière de renseignement et d'opérations afin d'assurer la sécurité des frontières irano-pakistanaises. Le mardi 28 juin, l'agence de presse palestinienne MAN a rapporté qu'un soldat israélien avait été poignardé dans la vieille ville de Qots. Citant des témoins oculaires, Mann a rapporté que l'auteur de l'attaque avait réussi à s'échapper après avoir poignardé un militaire israélien près de l'une des portes de la mosquée Al-Aqsa. La chaîne 13 de la télévision israélienne a rapporté que le jeune homme s'était enfui vers la mosquée Al-Aqsa, suite à quoi les forces d'occupation ont fermé toutes les entrées du lieu. Des coups de feu ont été entendus près de la porte du conseil, Bab al-Majlis en arabe. Les forces d'occupation israéliennes ont donc décidé de fermer le quartier de Bab al-Amoud à Rotz et de la mosquée Al-Aqsa. Plusieurs jeunes Palestiniens ont été interpellés. Les médias israéliens ont confirmé qu'un Palestinien avait tenté de commettre une attaque à l'arme blanche et avait réussi à s'échapper. Des sources locales ont indiqué qu'il y avait eu un déploiement massif des forces d'occupation dans la vieille ville, au cours duquel elles ont fermé les portes d'Ata et du Conseil et pris d'assaut les environs de la mosquée du Dôme du Rocher. Israël fait face à une vague d'attaques des Palestiniens qualifiée de sans précédent. Quelques milliers de militaires yéménites ont reçu ce lundi 27 juin leur diplôme à l'issue d'un défilé militaire dans la zone militaire centrale. La cérémonie de remise des diplômes de 3000 militaires yéménites a eu lieu ce lundi 27 juin lors d'un défilé en présence du commandant de la zone militaire centrale, le général de division Abd al-Khalir Badreddine al-Houssi. Les militaires ont déclaré leur pleine disponibilité à soutenir la foi et la patrie devant les agresseurs et les occupants. Lors de la cérémonie, le ministre de l'Information, Zaifallah Al-Shami, a salué les nouveaux diplômés pour leur niveau de préparation et leur volonté de défendre la patrie, sa sécurité, sa stabilité, sa souveraineté et son indépendance. Les forces d'agression, bien qu'elles soient dans une trêve, elles utilisent cette trêve pour arranger leur situation. Mais nous sommes plus forts et mieux préparés qu'eux. Nous sommes plus forts parce que nous sommes liés à Dieu et nous tirons notre force de lui. Le ministre Al-Shami a ajouté que l'ennemi n'a pas bien fait ses calculs. L'armée et les comités populaires ont prouvé qu'ils étaient au courant des complots des pays d'agression et de leurs ruses. Les développements montrent que les forces yéménites sont pleinement préparées pour passer à l'étape post-trêve, alors que la trêve a été violée à maintes reprises par la coalition d'agression saoudienne et dont la prolongation a été jugée improbable par le vice-ministre yéménite des Affaires étrangères, Hossein Al-Ezzi. Le président du comité suprême de la révolution yéménite, Mohamed Ali Al-Houssi, est tout à fait clair et sérieux pour rappeler. La poursuite du blocus et le refus de l'application des contenus du cessez-le-feu, qui est un document officiel conclu sous les auspices de l'ONU et du Conseil de sécurité, souligne le crime intentionnel de l'Arabie saoudite d'utiliser la faim comme une arme contre le peuple yéménite. La hausse des prix du pétrole, qui devrait atteindre les 30%, pourrait faire baisser le produit intérieur brut PIB de la zone euro de 1,5% selon une nouvelle étude. Présentée mardi 28 juin lors du forum annuel de la Banque Centrale Européenne, BCE, qui se tient à Sintra, au Portugal, l'étude a montré que les pays européens étaient parmi les plus touchés par la flambée des prix du pétrole et du gaz, notamment en raison de leur dépendance à ces carburants, aussi bien pour leur production que pour leur consommation. Selon cette étude, l'augmentation des prix de l'énergie est directement liée aux tensions géopolitiques et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par le conflit en Ukraine. En moyenne, chaque augmentation de 10% des prix du pétrole risque de réduire le PIB de la zone euro de 0,5% dans un délai de 2 ans, ce qui signifie qu'une inflation pétrolière de 30% pourrait à terme réduire le PIB de la zone euro d'1,5%. La hausse des prix des autres marchandises, notamment des denrées alimentaires, a déjà fait monter les perspectives d'inflation et est susceptible d'avoir des effets durables sur les prix, selon la même étude. Le président russe Vladimir Poutine a signé mardi 28 juin un projet de loi légalisant les importations parallèles dans le pays en vue de stabiliser les prix dans le contexte des sanctions économiques de l'Occident. Cette loi protège les entreprises russes qui importent certaines catégories de marchandises sans l'autorisation du détenteur de la propriété intellectuelle, les soi-disant importations parallèles, contre toute responsabilité civile, administrative et pénale. Cette loi autorise le gouvernement russe à déterminer la liste des marchandises soumises à la nouvelle législation. Cette légalisation des importations parallèles vise à protéger l'économie et les citoyens de Russie face aux sanctions économiques, à simplifier le commerce des marchandises éligibles et à stabiliser leurs prix, a déclaré Vyacheslav Volodine, président de la Douma d'État, chambre basse du Parlement russe. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé mardi 28 juin sa profonde inquiétude après la mort de vie soudanais en Éthiopie, appelant les deux pays à faire preuve de retenue et à prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, au siège permanent des Nations Unies à New York. Dimanche 26 juin, l'armée soudanaise a annoncé que l'Éthiopie a exécuté 7 soldats soudanais et un citoyen, assurant qu'elle prendra des mesures de représailles contre cette trahison. L'armée éthiopienne a annoncé plus tôt mardi être prête à collaborer avec son homologue soudanaise dans ses enquêtes, exprimant l'espoir que le gouvernement soudanais éviterait toute escalade. La frontière entre les deux pays est le théâtre de tensions, alors que Khartoum a annoncé le 31 décembre 2020 que l'armée avait pris le contrôle de tout le territoire soudanais dans la zone frontalière d'Al-Fashaga avec l'Éthiopie. De son côté, Addis Abeba accuse le Soudan d'avoir pris le contrôle des terres éthiopiennes, ce que Khartoum dément. La zone d'Al-Fashaga comprend les terres agricoles les plus fertiles dans l'État soudanais de Gedaref et divisée en trois régions, à savoir le Grand Al-Fashaga, le Petit Al-Fashaga et la région du Sud. Au moins 22 terroristes ont été neutralisés dans une opération menée lundi 27 juin par les forces de défense et de sécurité burkinabé dans le sud-ouest du pays, a annoncé le lendemain, mardi, l'armée burkinabé dans un communiqué. Suite à des renseignements consolidés, une action offensive a été conduite par des unités du groupe d'action rapide de surveillance et de l'intervention de la province de la Bogoriba, région du sud-ouest, et des unités du groupement départemental de Gaoua le 27 juin pour interpeller des individus qui transportaient des explosifs, selon le communiqué. À l'issue de l'opération, les unités ont effectué un ratissage au cours duquel trois bases des terroristes ont été découvertes, précise le communiqué, ajoutant que les unités ont à chaque fois engagé le combat, neutralisant au moins 22 terroristes. Une importante quantité de matériel, dont de l'armement, des munitions, de la drogue et des produits pharmaceutiques ont également été récupérés ou détruits, selon la même source. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. La stratégie sioniste de la tête de la pieuvre a bel et bien échoué. Le nouveau plan des sionistes, consistant à porter atteinte à l'Iran à la place des groupes de résistance, a capoté très rapidement, selon le journal Rayel Yom. Le premier ministre sortant du régime sioniste, Naftali Bennett, a prétendu début juin que ce régime mettait en œuvre la doctrine israélienne dite de la pieuvre contre la République islamique d'Iran. Cela signifie que, selon les allégations de Bennett, nous ne jouons plus avec les tentacules, avec les mandataires de l'Iran, nous avons créé une nouvelle équation en visant la tête. En introduisant la nouvelle stratégie dite de la tête de la pieuvre, le régime sioniste avait l'intention de concentrer ses attaques sur l'Iran et d'entrer en guerre avec l'Iran, aussi bien depuis l'intérieur que l'extérieur, et pas seulement avec des groupes de résistance tels que le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique, les Hashd al-Shaabi ou Ansarallah, a écrit Rayel Yom. Les récents développements militaires et du renseignement ont montré que l'utilisation de termes par les sionistes est une chose et que ce qui se passe réellement sur le terrain en est une autre. Par conséquent, le régime sioniste n'a pas encore réussi à cibler l'Iran ni à porter atteinte aux groupes de résistance, indique le journal. Selon ce rapport, au cours de la dernière décennie, l'Iran est devenu militairement, politiquement et économiquement plus fort qu'avant et les forces de la résistance ont fait de grands progrès en termes de puissance et d'armement et sont devenues plus puissantes que de nombreuses armées. Parce qu'elles disposent à la fois des missiles de haute précision et des drones modernes et avancés. Bien sûr, il faut y ajouter une force de combat dotée de capacités militaires élevées. Le régime sioniste n'a gagné aucune guerre depuis 1967 et n'a pu occuper aucun des pays arabes depuis 40 ans. Tout au contraire, il n'a fait que payer des coûts matériels humains de son comportement et a fini par accepter de battre en retraite, précise le journal Rayal Yaoum. Le régime sioniste a échoué dans la guerre des navires et des pétroliers contre l'Iran. Actuellement, il fait face à une panique à la suite de laquelle il appelle tous ses touristes et citoyens à quitter la Turquie. Dans le cadre de ses actions désespérées contre Téhéran, le ministre des Affaires étrangères du régime sioniste, Yair Lapid, s'est rendu en Turquie et a rencontré son homologue turc. Avant cette visite, les sionistes ont prétendu que la vie de leurs touristes en Turquie était en danger et qu'ils seraient ciblés par l'Iran. Ces allégations interviennent alors que les experts soulignent que l'entité sioniste tente de semer la zizanie entre Téhéran et Ankara pour ainsi faire associer la Turquie à ses coalitions vicieuses dans la région. Dans ce droit fil, le porte-parole de la diplomatie iranienne a fermement démenti les déclarations des responsables israéliens ces dernières semaines, selon lesquelles l'Iran ciblerait les touristes israéliens en Turquie, les qualifiant d'allégations montées de toutes pièces.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 25 juin 2022. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé mercredi soir à Téhéran pour effectuer une visite officielle et s'entretenir avec les hauts responsables iraniens, dont le président Ebrahim Raisi et son homologue, Hossein Amir Abdollahian, et discuter des questions bilatérale, régionale et internationale. Il s'agissait de la première visite du ministre russe des Affaires étrangères en Iran depuis l'entrée en fonction du président Ebrahim Raisi. Cette visite intervient au moment où le monde connaît de nombreuses crises économiques et énergétiques et bien sûr au menu des discussions. Alors, le développement des relations, de la coopération économico-commerciale, mais aussi de la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, les dossiers régionaux, entre autres la Syrie, étaient également au menu des discussions des deux parties. Selon de nombreux observateurs, cette visite ouvre un nouveau chapitre dans les relations Téhéran-Moscou. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de cette visite de M. Lavrov à Téhéran et bien entendu la perspective de la coopération entre les deux pays dans les domaines économiques et politiques, mais aussi dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le chef de la diplomatie russe s'est rendu mercredi soir à Téhéran pour s'entretenir avec les autorités du pays, parmi lesquels son homologue iranien. À la veille de son voyage, les médias occidentaux ont commencé leurs spéculations sur des motifs de ce déplacement. Le média des démocrates, la CNN, croit que les Russes se tournent vers un allié de confiance, qui est la République islamique d'Iran, pour savoir comment contourner un déluge des sanctions occidentales. Sans oublier le fait que de telles visites pourront donner un coup d'accélérateur aux accords de coopération, poursuivis notamment dans le gouvernement de Raïssi, entre les deux pays. Al-Arabi Al-Jadid vient de rapporter que l'un des objectifs de la visite de Lavrov en Iran était de favoriser l'élargissement de la coopération Téhéran-Moscou dans le sens de la lutte contre les sanctions américaines. Le média arabe, basé à Londres, déclare que les responsables des deux pays avaient récemment eu de nombreuses rencontres publiques et à huis clos. En référence à des sources d'information iraniennes, Al-Arabi Al-Jadid rapporte que Lavrov rencontrerait le président Ebrahim Raisi, Amir Abdollahian et d'autres responsables iraniens. Les sources, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont souligné que lors de sa visite à Téhéran, Lavrov discuterait de la coopération réciproque dans les affaires régionales et internationales, y compris les évolutions concernant le dossier nucléaire iranien, de même que la situation prévalant en Syrie. La visite de Lavrov à Téhéran est en effet sa première visite en Iran depuis l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim Raisi. La dernière visite de Lavrov remonte à plus d'un an, où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Certes, cette dernière visite se fait dans un moment où le monde connaît de nombreuses crises économiques et énergétiques, relevant des développements régionaux et internationaux, en particulier la guerre en Ukraine. L'incapacité et la faiblesse de Joe Biden a décidé d'aller au-delà de la politique ratée de la campagne de pression maximale contre l'Iran ont également abouti à une longue pause dans les négociations sur la levée des sanctions. Par conséquent, on peut dire que les sanctions occidentales contre l'Iran et la Russie ont ouvert un nouveau chapitre dans la coopération des deux pays.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette édition du débat. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Vaucluse avec Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue. Monsieur Cornu, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et à Monsieur Luc Michel.
Monsieur Cornu, alors, comme vous le savez, le chef de la diplomatie russe s'est rendu pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président Ebrahim Raisi à Téhéran, mercredi soir. Il a eu des entretiens avec les hauts responsables iraniens, bien sûr des affaires régionales et internationales, entre autres la situation en Syrie, la crise en Ukraine, mais aussi la coopération économique bilatérale était au menu des discussions des deux parties. Alors, au moment où le monde est confronté, en effet, à de nombreuses crises, où les deux pays notamment sont soumis à des sanctions occidentale, en l'occurrence américaine. Quel premier regard portez-vous sur l'importance de cette visite, la visite de M. Lavrov à Téhéran?
C'est une visite très importante et très positive, puisqu'il apparaît que la plupart des grands enjeux seront évoqués. La coopération régionale, l'Iran et la Russie partagent des côtes de la mer Caspienne, qui est un centre de production de pétrole et de gaz depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, et aussi les enjeux régionaux sur la Syrie pour trouver une issue favorable à tous les combats, à tous les envahissements de parties de la Syrie par la Turquie, sous le prétexte de protéger sa frontière contre des infiltrations, contre la présence organisée mais trop longue et mal gérée d'anciens mercenaires combattants qui ont été regroupés dans cette région, dans la province d'Idlib, suite à des accords locaux chaque fois, arrangés par la Russie avec l'accord de la Syrie. Et aussi, comme deux pays lourdement frappés par des sanctions plus ou moins légitimes et souvent même illégales, ces pays doivent réagir pour trouver des solutions positives, pour contourner ces sanctions et surtout pour montrer qu'elles sont vaines, qu'elles sont non seulement injustes, mais qu'elles affaiblissent en fait l'Europe parce qu'elles renchérissent les achats de gaz et de pétrole pour toute l'Europe. Et bientôt, nous allons entrer dans l'automne et ensuite la saison, donc où il y aura beaucoup de consommation. Donc il est urgent de trouver des solutions positives pour montrer que ces sanctions, non seulement sont inefficaces, mais elles sont nocives pour toutes les parties. Et donc il faut trouver des voies pour relancer la diplomatie plutôt que jouer avec les bâtons que sont les sanctions.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre équipe et à M. Cordy. L'alliance stratégique entre l'Iran et la Russie, elle est fondamentale parce qu'elle est multidimensionnelle. Ce sont deux partenaires qui se font confiance. Il y a le volet militaire qui fait que rapidement l'OCDE, l'Organisation de coopération de Shanghai, va se transformer en contre-OTAN, plus seulement l'OTCS en son sein, mais toute l'alliance. Deuxièmement, il y a le partenariat géo-économique qui est encore renforcé par la lutte contre les sanctions. Et on voit que, fort de l'expérience de l'Iran et du Venezuela, la Russie a tendance à fédérer les États sous sanctions, comme on l'a vu récemment avec la visite de Maduro en Iran. Et enfin, il y a évidemment dans le domaine de la guerre du gaz et des hydrocarbures, il y a une alliance fondamentale. Les Américains disent que Téhéran, c'est l'épée géopolitique de la Russie dans cette guerre. Et effectivement, si l'Iran avait accepté de remplacer la Russie comme fournisseur des Européens, il aurait diminué l'emprise de ceux-ci sur le marché gazier et pétrolier européen. Mais l'Iran a refusé de le faire et a laissé ce marché aux mains de la Russie en échange d'alliances stratégiques fournies par Moscou. Voilà tout ce qu'il faut retenir de cela. Lorsque j'avais annoncé cette alliance en 2015, il y avait beaucoup de sceptiques. On m'avait opposé les divergences idéologiques qui existaient entre Téhéran et Moscou. Vous savez qu'actuellement, il y a deux visions de la géopolitique. Il y a la vision géopolitique occidentale, qui est celle notamment de l'administration Biden, qui fait prédominer l'idéologie, les positions idéologiques de la géopolitique. Par exemple, Biden divise le monde en démocratie libérale et en autocratie illibérale. Dans cette fausse analyse, des gens comme Orban ou comme Donald Trump, ils se retrouvent aux côtés de Xi Jinping, aux côtés de Vladimir Poutine ou aux côtés de l'Iran. C'est une fausse vision, évidemment. À Pékin, à Moscou et à Téhéran, on pratique une géopolitique classique. C'est-à-dire qu'on oppose de vieux empires continentaux, l'Iran, qui est l'héritière de la Perse qui existe depuis 25 siècles, la Russie, qui est la troisième Rome, l'héritière de Rome, qui existe depuis 27 siècles, et la Chine, qui existe aussi depuis 25 siècles, on l'oppose à des jeunes puissances talacrocratiques, jadis la Grande-Bretagne, aujourd'hui les États-Unis, sans grande histoire. Et quand vous regardez l'affrontement stratégique entre l'axe de l'Eurasie et le bloc américain occidental, vous voyez que le bloc américain occidental, il est structuré sur des puissances maritimes, le Japon, l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc. Tandis que l'Eurasie est structurée sur de vieilles puissances continentales. Et l'Afrique à laquelle l'Organisation de coopération de Shanghai tend la main, c'est également l'existence de vieux empires. Qu'on se souvienne du Mali, qui, aux alentours de l'an 1000, était l'État le plus avancé que les États musulmans et que les États européens. Et le Mali, justement, était à cette époque une puissance qui était détruite par le colonialisme. C'est cela qu'il faut retenir. Donc, Téhéran et Moscou, main dans la main, ils sont en train d'imposer une nouvelle vision de la géopolitique mondiale.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, M. Michel. Monsieur Cornu, alors, M. Michel l'a rappelé, il s'agit donc entre Téhéran et Moscou d'une coopération multidimensionnelle, d'un partenariat stratégique. Alors, dans cette logique de confrontation entre ces deux visions de géopolitique dont parlait tout à l'heure M. Michel, comment cette visite de M. Lavrov est perçue dans les milieux politiques et médiatiques occidentaux, dans le contexte des évolutions actuelles de la région, voire du monde, notamment sur fond de crise en Ukraine?
Les Européens ont voulu essayer de réduire leurs achats de gaz, de pétrole et de gaz aussi, de la Russie, puisque ce gaz alimente les caisses financières de la Russie, donc la guerre. Et les Européens veulent freiner, arrêter, certains même arrêter cette guerre, Mais les restrictions font monter les prix. Donc on voit bien que ce n'est pas une solution. Et il faut rappeler ici que pour les réserves mondiales de gaz, la Russie est numéro 1 avec 21% des réserves. L'Iran est numéro 2 avec 17% des réserves et sans doute le gaz le moins cher à produire du monde et encore peu exploité à cause des sanctions américaines illégales qui sont faites à la demande en fait de l'État d'Israël qui veut tout le temps agiter des menaces pour appeler à l'aide les grandes puissances et puis déformer la réalité, faire oublier sa propre occupation des territoires palestiniens. Et le troisième pays de réserve est le petit Qatar qui l'exploite depuis longtemps sous forme de gaz liquéfié qui est exporté vers l'Europe et vers aussi de plus en plus vers l'Asie. Donc ces trois pays font plus de 50% des réserves mondiales. Et donc pour ce marché du gaz, il est essentiel que au moins la Russie et l'Iran s'entendent et qu'ils tentent de se rapprocher des positions du Qatar qui est très sollicité actuellement pour vendre un peu plus de gaz liquéfié. Mais les contrats sont déjà pris, sont à long terme, on doit augmenter la production très rapidement. Donc en fait, l'Iran, ici, avec toutes ses réserves encore peu exploitées, son gaz pas cher, est une opportunité intéressante que sans doute la Russie va vouloir contribuer de développer. Comme vous savez, les sanctions ont fait partir la société Total qui avait signé un grand contrat. La situation en Ukraine fait que l'autre société française, Engie et Total, se sont rapprochés du Qatar. Donc il y a tout un des mouvements profonds. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, au lieu que ça soit passif, il faut que la Russie et l'Iran reprennent l'initiative dans ce marché mondial du gaz. Et je pense que ça sera un des sujets à discuter. Bien sûr, c'est du moyen terme, c'est du long terme, mais c'est essentiel comme signal pour démontrer aux Européens, aux Américains, que toutes ces sanctions sont inefficaces, ont des effets très négatifs, notamment aussi pour la politique climatique mondiale, puisque utiliser du gaz liquéfié, ça fait beaucoup plus d'effets d'émissions de CO2 et de coûts aussi que l'utilisation du gaz naturel transporté par gazoduc.
Merci encore, M. Cornu. Restez avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Michel, dans quelle mesure ce nouveau chapitre dans les relations entre Téhéran et Moscou pourrait non seulement contribuer à contrer les sanctions illégales, injustes et unilatérales des pays occidentaux, mais aussi, comme disait Monsieur Cornu, à permettre à la Russie et à l'Iran de reprendre l'initiative sur le marché, notamment mondial, du gaz et de l'énergie?
Les sanctions, c'est, je dirais, la frise sur le gâteau. Les mécanismes d'évitement, mais c'est un phénomène marginal. La véritable chose qui est au cœur de la crise ukrainienne, c'est la guerre des hydrocarbures. Mais contrairement à ce que racontent les Américains et les Occidentaux, la guerre des hydrocarbures qui comprend deux volets, la guerre du gaz et la guerre du pétrole, elle n'a pas commencé il y a 100 jours avec la crise ukrainienne. Elle a commencé en septembre 2015, lorsque les Américains, avec la production des hydrocarbures de schiste, sont devenus les dominants du marché du gaz et du pétrole. Depuis, la Russie, avec l'aide de l'Iran, elle contribue à combattre cela. Le principal volet, c'est la guerre du gaz. En juillet 2019, la Russie a organisé l'Union des États producteurs de gaz. Le premier sommet a été organisé en Guinée équatoriale, à Malabo, qui est un État pétro-gazier modèle et dont la régie d'État a pour actionnaire Gazprom. Là-bas, il y avait les Iraniens, les Vénézuéliens, les Algériens, les Sénégalais et également d'autres puissances. Ces gens se sont organisés. Quel est le but de ce qu'on appelle vulgairement l'OPEP du gaz? C'est de reprendre le contrôle du marché du gaz aux Américains et de déterminer le prix du mètre cube de gaz, en sachant que tous ces pays produisent un gaz de bonne qualité, tandis que le gaz de schiste américain est de mauvaise qualité. Il pénalise durablement les sols pour plusieurs siècles en matière écologique, parce que la technique d'extraction qu'on appelle fractale détruit le sous-sol. Et enfin, ce gaz américain, il coûte 300 fois plus cher que les autres gaz. Le deuxième volet, c'est la guerre du pétrole, c'est-à-dire que la Russie s'est rapprochée de l'Arabie saoudite et elle a amené ses alliés dans l'OPEP, notamment de nouveau la Guinée équatoriale, qui est membre de l'OPEP depuis 2 ans. Aujourd'hui, évidemment, les Saoudiens ne sont plus du côté américain. Ils ont refusé d'augmenter la production et ils tiennent du côté du bloc de l'Est. Il y a eu le second sommet à Doha il y a quelques semaines des États producteurs de gaz. Cette fois-là, il y avait les Émiratis et les Qataris en plus. Et à la grande surprise des Américains, ils ont basculé du côté du bloc de l'Est. Ils ont refusé d'augmenter la production et de supplier la Russie pour fournir les États-Unis et surtout les Européens. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils ont parfaitement compris que le but des Américains en contrôlant le marché du gaz, comme en contrôlant le marché du pétrole, c'était de ruiner les États classiques producteurs. Les Qataris et les Émiratis savent qu'ils ont encore une quarantaine d'années à bénéficier de la richesse de la production de l'hydrocarbure et ils ne veulent pas être les dindons de la part des calculs stratégiques des Américains. Voilà donc le rôle moteur de Téhéran et de Moscou dans cette affaire, c'est le rôle moteur dans la guerre des hydrocarbures. Et comme les Américains l'ont expliqué, je l'ai dit il y a quelques minutes, il y a des études qui sont sorties aux États-Unis, ils expliquent que ce qui a permis à Moscou de contre-attaquer et pour le moment d'être victorieux dans la guerre des hydrocarbures, c'est l'alliance avec l'Iran. Si l'Iran avait accepté de remplacer la Russie pour fournir les Occidentaux, c'est-à-dire de faire de l'argent immédiat, mais d'être perdant à long terme, évidemment, les choses ne seraient pas passées comme telles. Les Américains ont raison de dire que l'Iran, c'est dans le domaine de la guerre des hydrocarbures, l'épée géopolitique de Moscou.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Cornu. M. Cornu, alors, dans cette guerre des hydrocarbures, dans quelle mesure cette alliance entre l'Iran, la Russie, sans oublier bien entendu la Chine, pourra contrebalancer en quelque sorte les équations au détriment bien entendu des États-Unis. En d'autres termes, comment les sanctions injustes américaines pourront se retourner contre eux-mêmes, mais aussi contre les pays européens qui, malheureusement, se sont alignés sur la politique hostile des États-Unis envers la République islamique d'Iran, mais aussi la Russie.
Oui, M. Luc Michel a tout à fait raison de rappeler l'émergence de gaz de schiste et de pétrole de schiste aux États-Unis, qui ont des conséquences environnementales désastreuses sur place et dans le reste du monde. Moi, je voudrais rappeler que cette guerre des hydrocarbures, elle date même de plus longtemps. Par exemple, en Iran, la Russie tsariste et l'Angleterre se sont partagées en 1907 des zones d'influence en Iran. La Russie avait le pétrole de Bakou au bord de la Caspienne et était un peu moins intéressée. Par contre, les Anglais qui développaient leur flotte pour le contrôle des routes marchandes et contrôle de la défense de leur colonie indienne étaient très intéressés à avoir du pétrole non loin de l'océan Indien. Et ensuite, les Américains ont pu un peu prendre la place du Royaume-Uni dans la péninsule arabique en signant des accords avec les Saoudiens. Et du coup, il y a une certaine, depuis très longtemps, une domination de l'Angleterre et du Royaume-Uni et des États-Unis pour ce contrôle du marché des hydrocarbures. Et d'ailleurs, aussi à Londres, avant la guerre de 14, en 1912, à Londres a été créée la Turkish Petroleum Company, qui n'avait de Turc que le nom, avec quelques actionnaires turcs aussi, un peu plus ou moins discrets. Mais l'intention, très tôt, de l'Angleterre était de contrôler tout le pétrole abondant du Moyen-Orient, qui était connu par de plusieurs études géologiques dans les années 1870, 80, 90, et aussi au début du siècle, au moment où les Allemands étudiaient le tracé du chemin de fer Berlin-Bagdad, en Mésopotamie et aussi en Turquie. Donc c'est une vieille histoire. Il faut bien rappeler que le marché des hydrocarbures, ce sont les plus gros marchés du monde de commodités, de produits. Et c'est aussi les marchés qui rapportent le plus, qui ont le plus de fluctuations à cause des spéculations, à cause du contrôle des robinets. Ici, le Venezuela, un jour l'Iran, un autre jour ou quelques décennies l'Irak. Donc c'est vraiment l'enjeu fondamental. Et il est donc important que s'opposent à cet impérialisme anglo-saxon des forces plus indépendantes de la Russie, de la Chine, de l'Iran et des pays arabes démocratiques ou qui peuvent le redevenir, et qu'ils s'allient aussi à l'Europe pour cela, pour qu'à la fin que l'Europe soit moins dépendante des États-Unis et des anglo-saxons pour son indépendance énergétique, pour sa solidité énergétique.
Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt. Plaisir, comme d'habitude.
Voilà, c'est la fin de cette édition du débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Le fiasco de la guerre économique de l'Occident contre la Russie. Dans un mélange d'irréalisme géopolitique, de diplomatie spectacle et d'atlantisme aveugle, l'Union européenne a dégainé l'arme économique pour contrer l'intervention militaire russe en Ukraine. Ces sanctions se sont révélées dommageables pour les Européens. Les séries de sanctions économiques appliquées par l'Union européenne dès l'intervention russe en Ukraine en février dernier avaient pour objectif de fragiliser la Russie pour la forcer à cesser les hostilités. Or, cette véritable guerre économique déclenchée par Bruxelles contre Moscou a très vite fait, comme déjà en 2014 avec les sanctions contre la Russie après l'affaire de la Crimée, de pénaliser également les pays européens. La Russie est le cinquième partenaire économique de l'Union européenne derrière la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse. Et les relations commerciales avec la Russie sont plus ou moins importantes selon chaque pays membre de l'Union. Par exemple, la France est le premier employeur privé en Russie avec près de 160 000 salariés. Près de 500 entreprises françaises opèrent dans le pays de Vladimir Poutine, dont 35 entreprises du CAC 40. Ainsi, en cédant aux dictats et aux pressions d'ONG, souvent liées à des gouvernements ou à des grands groupes anglo-saxons, d'associations humanitaires ou même du gouvernement ukrainien, les forçant à quitter la Russie, ce sont les sociétés françaises qui sont de fait elles aussi sanctionnées, et cela aura nécessairement des répercussions négatives en France. En Allemagne, 66% du gaz consommé vient de Russie. C'est pourquoi Berlin, même si elle a voté les sanctions, a fait en sorte que celles-ci ne touchent pas ses intérêts vitaux, notamment en renforçant un embargo énergétique total à l'encontre de la Russie. Après l'exigence imposée par Moscou aux acheteurs du gaz russe de payer en roubles, plusieurs gros acheteurs européens de gaz russe ont été forcés de trouver une solution technique afin d'effectuer ce paiement en roubles. La Commission européenne s'est vue alors obligée d'accepter ce compromis. Tout acheteur de gaz venant de Russie devra donc ouvrir un compte à Gazprom Bank. Cette banque russe reçoit ainsi les paiements dans la devise du contrat, les convertit à ses frais sur un deuxième compte en roubles ouvert par la société européenne acheteuse de gaz et paie ainsi Gazprom, le fournisseur de gaz, en monnaie russe. Il s'agit donc d'une pitoyable et hypocrite capitulation de l'Union européenne. le rouble a retrouvé son taux de change d'avant le 24 février 2022, date de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Quant à la politique des sanctions contre le pétrole russe, c'est également un fiasco. Les inconséquents dirigeants européens se sont résolus à abandonner un projet visant à interdire aux navires de l'Union européenne de transporter du pétrole russe à cause de la concurrence de Londres qui voulait profiter de la situation, surtout après l'opposition de la Grèce et de Chypre craignant un impact trop dangereux sur leur économie. Au final, après 4 mois de guerre, les sanctions énergétiques voulues par les Européens ne sont ni plus ni moins qu'un suicide économique et industriel pour l'Allemagne, mais aussi pour tous les États européens qui ont besoin d'une énergie abondante, écologique par pipeline et peu coûteuse. En attendant, la Russie est en train de gagner plus d'argent avec ses ventes de gaz et de pétrole qu'avant la guerre en Ukraine. Moscou croule même sous les excédents financiers. Ses profits avec la hausse du baril sur les marchés internationaux sont supérieurs à ceux qui étaient anticipés dans les prévisions budgétaires russes. Les céréales, l'autre arme de guerre de la Russie. La Russie avait par ailleurs mis en place depuis plusieurs années un certain nombre de protections de son système bancaire et détient d'importantes ressources naturelles ainsi que des réserves financières conséquentes, en or notamment. On l'a déjà vu ailleurs et Poutine s'y était préparé. Les sanctions internationales ne font en général que renforcer les régimes politiques qui en sont la cible et les forcent au contraire à innover et diversifier leur économie. Même si les oligarques sont aujourd'hui très fortement touchés par les sanctions occidentales, rares sont ceux qui ont pris leur distance avec le clan Poutine. Et surtout, souvenons-nous au passage que c'est depuis 2014, en réponse aux sanctions financières et politiques adoptées par l'Union européenne et les États-Unis après l'annexion de la Crimée, que Vladimir Poutine avait mis en place un embargo strict sur tous les produits alimentaires venus d'Europe, pénalisant déjà fortement les agriculteurs français pour parallèlement moderniser son secteur en Russie. Mécaniquement, cette situation a fait de la Russie, quelques années plus tard, l'un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire, notamment en devenant le premier exportateur de blé de la planète. Si la Russie est devenue un véritable paria en Occident, elle est loin d'être isolée et coupée du monde. Car seuls les Occidentaux ont adopté des sanctions contre elle. Les BRICS, Brésil, Inde, Chine les ont rejetées, comme aussi de nombreux pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie ou du monde arabo-musulman. D'ailleurs, Moscou est sur le point de réorienter son secteur des hydrocarbures, mais également son économie et son commerce céréal vers tous ces pays émergents. C'est même une nouvelle organisation mondiale qui est en train de se mettre en place et peut-être la fin du monopole de la puissance occidentale. Enfonçant tête baissée pour suivre la ligne de l'administration Biden et en s'alignant aveuglément sur la logique de guerre otanienne, au mépris de ses propres intérêts, la guerre économique irresponsable et chaotique de l'Union européenne contre la Russie, pour un conflit qui n'était pas le sien mais celui des États-Unis, est en train de pousser l'Europe dans le gouffre. Au-delà de la rupture géostratégique avec la Russie, l'Union européenne perd l'un de ses principaux partenaires commerciaux et va s'enfoncer dans une crise énergétique et économique durable dont les peuples européens seront les premières et principales victimes. L'Europe va également perdre surtout sa dépendance énergétique au profit de pays comme l'Algérie, le Qatar, l'Azerbaïdjan et aussi les États-Unis, qui veulent se substituer aux Russes pour alimenter l'Europe en gaz en vendant leur gaz de schiste plus cher et dont l'Union européenne s'interdit l'exploitation sur son sol pour des raisons environnementales. Washington semble être, pour l'instant, le seul grand gagnant occidental de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie. Les Américains sont en fait parvenus à séparer pour longtemps les Européens des Russes et compromettre ainsi une potentielle alliance russo-européenne, leur cauchemar historique. Ils ont réactivé l'OTAN et vont ainsi pouvoir intensifier leur mainmise sur l'Europe et la vente de leur armement aux Européens. Or, en affaiblissant leurs cousins européens et en poussant encore plus la Russie dans les bras de la Chine, la superpuissance de demain, les États-Unis font une grave erreur stratégique qui, à long terme, leur sera probablement fatale. Surtout en cas d'un futur conflit contre l'Empire du Milieu.